perspective de cette politique qui a été faite sous la direction de Jacques Roubaud. Je me souviens qu'à l'origine, la perspective de cette thèse, c'était l'étude stylistique, c'était d'essayer de voir comment le rythme des vers contribuait à définir et à caractériser des textes, des auteurs et des genres littéraires. Mais pour en arriver là, il m'a fallu faire d'abord un long détour qui a finalement fini par prendre une place très importante. Parce que pour étudier la structure rythmique des vers, il fallait construire des outils qui permettaient d'analyser. Donc je commencerai donc par présenter rapidement le corpus, puis le modèle théorique sur lequel, le modèle théorique sur lequel je me suis appuyée. Et après, donc, je ferai une parenthèse assez longue sur la mise en œuvre de l'outil informatique et sur la constitution de la base de données, parce que malheureusement, l'informatique n'était pas encore comme l'électricité, comme l'a dit François Rastier ce matin. Et puis après, j'essaierai de vous montrer un peu la figure du vers classique et ses variations selon les genres et selon les époques. Donc en gros, tout ce travail sur le rythme du vers classique français n'a porté que sur Corneille et Racine, ce qui constitue quand même un corpus de 80 000 vers. Et donc, on a 46 pièces de théâtre et 80 000 vers, donc on est face à un corpus d'une taille assez conséquente, avec une présence massive d'alexandrins, puisqu'on a 95% d'alexandrins dans ce corpus. Donc, dans la tradition de la théorie du rythme développée par Pierre Luçon et Jacques Roubaud, le rythme et le mètre sont représentés comme un système hiérarchisé à plusieurs niveaux. Donc en gros, le vers, si on part de ce niveau-là, le vers alexandrin est constitué à chaque fois de deux hémistiches, et chacun de ces hémistiches est constitué de six syllabes. Donc ça n'étonnera personne. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les tragédies, dans le vers classique à rime plate, le vers est lui-même organisé dans une entité d'un niveau supérieur qui est la paire de vers rimant ensemble, et ensuite dans des quatrains de vers, puisque l'alternance en genre dans le vers classique est systématique. Interrompez-moi dès que ce n'est pas clair, parce que je préfère s'en servir au fur et à mesure. Donc en fait, dans l'approche rythmique, on cherche à tenir ensemble ces différents niveaux d'analyse pour avoir une représentation multidimensionnelle et à plusieurs niveaux de la structure du vers. Donc, je vais commencer par la question de la rime. Donc, pour étudier le fonctionnement de donc la question la rime se situe donc à ces niveaux-là du modèle théorique. Donc pour ça, j'ai d'abord construit un système d'observation empirique de la rime. Et sur l'ensemble du corpus, donc sur les 80 000 vers, j'ai regardé quels étaient les mots qui rimaient ensemble et constitué comme ça des groupes de mots rimes pouvant rimer ensemble. Donc à partir de ces groupes de mots rimes, là je vous en donne un exemple. Donc là, c'est les terminaisons en U. On voit que le couple combattu-vertu apparaît 17 fois dans le corpus, la première occurrence étant dans le cycle de acte 1, scène 2. Et nous avons ici tous les couples de mots rimes en U. Donc ça, ces groupes sont constitués sur une hypothèse de transitivité, c'est-à-dire que si quelque part un mot rime avec un, enfin si quelque part combattu rime avec vertu et qu'ailleurs vertu rime avec résolu, on peut poser que combattu pourra rimer avec résolu, ce qui finalement n'est pas si évident. Donc ça c'est un premier élément pour étudier la rime. Le second élément, c'est des représentations graphiques qui nous permettent de voir les liaisons attestées entre mots rimes. Donc par exemple, si on reprend ce groupe de mots rimes en U, on voit que finalement, il y a beaucoup de liaisons entre des mots rimes en DU, ici, beaucoup en TU, en VU, en LU, et que finalement les liaisons entre ces terminaisons en DU et PU ou TU sont extrêmement rares. Donc on a des mots relais qui permettent de jointer des sous-clics qui sont extrêmement ténus. Donc là, on voit déjà poindre un des résultats de ce travail, c'est que la longueur de la rime, l'extension de la rime varie selon le type de mot et le type de terminaison. Alors traditionnellement, pour chaque terminaison, j'avais ce type de document à explorer. Et ça m'a permis d'arriver à quelques résultats. Bon, la première, c'est que traditionnellement, les métriciens considèrent que la rime est faite essentiellement pour l'oreille. C'est un élément. Enfin, oui. Enfin, la grande majorité des définitions insistent sur l'identité phonique des fins de vers. Or, l'examen de la rime qu'on a pu faire sur Corneille et Racine permet au contraire de redonner toute sa place à la dimension graphique de la rime. Je donne quelques exemples. Déjà, l'opposition entre rime féminine et rime masculine, et surtout l'opposition entre rime plurielle et rime au singulier, n'était déjà sans doute plus sensible à l'oreille au XVIIe siècle, et pourtant, c'est une règle toujours respectée. L'autre point, c'est que les auteurs préfèrent faire varier l'orthographe plutôt que de faire des associations qui seraient en gros dissonantes pour l'oreille. Par exemple, on connaît toutes les variations qu'il y a entre la graphie d'encore, de lorsque, de jusque, etc. Mais on voit ici, en revenant aux éditions originales, que Racine faisait varier la graphie des mots selon le mot avec lequel le mot rimait. Donc, on voit ici trois variantes graphiques du verbe paraître qui sont liées à l'autre mot rime. Donc, c'est des choses qui avaient déjà été observées et qui ne sont pas systématiques, même s'il y a une tendance à faire ressembler les mots. Quand on revient aux manuscrits originaux, ça n'est pas systématiquement attesté. L'autre point, c'est qu'il y a des mots qui ne sont jamais associés ensemble quand leur graphie est trop différente. Par exemple, on ne trouve que deux fois dans le corpus des mots en EAU qui riment avec des mots en AU, et on ne trouve jamais de mots en EAU qui riment avec des O fermés, alors que ce sont dans les deux cas des O fermés. Donc, pour reprendre le terme qu'avait proposé Jacques Roubaud, la rime est bien faite pour un œil-oreille, et c'est bien cette double identité de la rime, à la fois faite pour l'œil et faite pour l'oreille, qu'on arrive à retrouver à travers l'examen de ce corpus, de ces textes, de la rime chez Corneille et Racine. Alors, dans la tradition métrique, très tôt, les manuels de métrique se sont attachés à distinguer, à faire des hiérarchies entre les types de rimes en posant l'existence de rimes riches, de rimes suffisantes, de rimes pauvres et de rimes riches, qui étaient définies d'une manière très générale. Je vous donne juste l'exemple de Mazalera, pour qui la rime est suffisante si elle admet deux homophonies, donc la voyelle et la consonne qui suit, pauvre si elle n'en admet qu'une, et elle est riche si elle en admet trois. Donc, quelle que soit la voyelle, quel que soit le contexte, une rime riche et pauvre et suffisante sont définies de manière définitive. En fait, il ne peut y avoir de définition générale des concepts de rime riche, suffisante et pauvre, mais seulement des définitions relatives qui sont liées à la terminaison. Donc ça, c'est quelque chose qui est frappant quand on étudie le corpus de Corneille et Racine. Je vous donne un exemple. Il est impossible qu'un mot en « et » un mot qui finisse en T rime avec un mot qui finisse en lait, L-E, alors que c'est tout à fait possible de trouver un mot qui finisse en tu avec une rime tu vu est tout à fait possible, alors qu'une rime T-V est absolument impossible. Donc déjà, les voyelles n'ont pas le même statut pour la rime. Je vous montre ce graphique qui n'est pas très très lisible. Donc en gros, ici, on a en abscisse le nombre de mots rimes pour une voyelle donnée et en ordonnée le pourcentage de couple de mots rimes avec une consonne d'appui différente. Donc, vous voyez bien ce que je disais là sur E EE, ES, EZ. Donc ces trois voyelles-là ont toujours, enfin, dans les cas de rime, la consonne d'appui est toujours identique. Il n'y a quasiment qu'une exception, et c'est un P, avec, c'est nymphée qui rime avec tisbé, enfin, donc c'est un P, un feu et un. Ce sont deux consonnes qui sont très proches au niveau phonologique. Voilà. Donc on voit ici s'amorcer une hiérarchie des voyelles, et on voit que plus on monte, plus l'identité de la consonne d'appui est rare. Donc pour des terminaisons en UI, en OA, en OUS, en OIS et OIX, l'identité de la consonne d'appui est extrêmement rare. Alors, les facteurs qu'on peut identifier qui font varier la nécessité d'avoir une consonne d'appui identique sont d'une part la nature de la dernière voyelle. Donc on a vu que la voyelle E est tellement faible qu'elle a besoin d'un appui pour qu'il y ait rime, et que les autres voyelles n'ont pas ces mêmes. Certaines voyelles ont plus besoin de soutien que d'autres. Ensuite, l'autre élément qui fait varier la présence d'une consonne d'appui, c'est l'espace graphique, c'est la longueur de la terminaison commune. En gros, plus la terminaison de la rime est longue, moins il y a besoin d'appuyer à gauche la rime. Et enfin, on est aussi obligé de tenir compte de la richesse du vocabulaire. Des groupes de mots rimes où le vocabulaire est très faible, l'identité de la consonne d'appui est beaucoup plus rare. Plus le lexique d'une terminaison donnée est important, plus on aura besoin d'étendre vers la gauche la rime. En fait, tous ces facteurs vont en fait dans le même sens. C'est plus la terminaison est remarquable et saillante, moins la rime a besoin de s'étendre à gauche. Donc tout se passe un peu comme s'il fallait atteindre une masse critique, un cumul de traits similaires pour qu'il puisse y avoir rime. Et dès que ce niveau est atteint, on n'a plus besoin d'étendre sur la gauche la rime. Voilà. Donc, il est clair qu'il est impossible de poser d'une manière générale et globale l'existence d'une rime, une définition d'une rime pauvre, suffisante et riche. On est vraiment obligé de contextualiser la définition en fonction du type de terminaison. Alors, ce qui est intéressant, ce travail de la rime est aussi intéressant parce qu'il nous permet de projeter dans la base qui décrit les vers le type de terminaison, et ce sont des éléments qui pourront après être utilisés dans des approches stylistiques. Par exemple, on pourra voir que dans telle pièce, les rimes, j'en parlerai pas, donc je peux peut-être le dire tout de suite, dans les pièces de Racine, les mots rimes les plus spécifiques de chaque pièce correspondent aux terminaisons des noms de personnages. Par exemple, dans Bérénice, c'est les rimes en is qui sont très surreprésentées par rapport aux autres mots rimes. Et cela, même si on ne tient pas compte des occurrences du mot Bérénice dans la pièce. Et ce phénomène est vraiment systématique, et il est conforté par le fait que Racine a toujours veillé à ce que les noms des confidents riment avec les noms des personnages principaux. Phénis avec Bérénice, Enon et Phèdre ne riment pas ensemble. Mais Arbat avec Mithridate, etc., etc. Alors maintenant, ce qu'il nous faut, c'est arriver à décrire, pour en arriver à la question du rythme, donc arriver à la description des positions métriques et la description du rythme, il nous faut arriver à décrire chacune des positions métriques. Mais avant de pouvoir les décrire, il faut les avoir identifiées. Et cette question est loin d'être évidente. Alors, je sais que c'est particulièrement ennuyeux, je vais essayer de le faire très vite, mais comme ça m'a pris beaucoup de temps, j'arrive pas à m'en empêcher. Donc, la question du dénombrement dans le vers classique, Non. Pour arriver à constituer un outil d'analyse du vers classique, il fallait avoir... soit on refaisait tout depuis le début, soit on réutilisait des outils déjà existants. Donc c'est cette démarche qui a été adoptée. J'ai travaillé avec François Yvon, qui est à l'ENST, qui a conçu un phonétiseur pour le français. Et ce phonétiseur s'appuie sur l'analyseur syntaxique de Patrick Constant, donc Silex, que vous connaissez sans doute. Cet analyseur existait, le phonétiseur existait, mais il était adapté à la langue, entre guillemets, ordinaire. Et ce qu'il a fallu faire pour créer le métromètre, qui est donc l'outil d'analyse du vers, c'est ajouter les règles de dénombrement du vers classique. Donc ça impliquait de travailler sur la question de la diérèse et de la synérèse, de coder les règles de diérèse et de synérèse, de travailler sur la règle de travailler sur les règles d'élision et de maintien du E muet et sur la question de la liaison. Donc je vais essayer de le faire assez rapidement. La diérèse, c'est le fait qu'un groupement qui commence par une semi-voyelle est prononcé comme occupe deux positions métriques, comme ici, d'un lien conjugal. Alors, on aurait pu penser qu'il suffisait d'étudier les couples de deux voyelles où la première est une voyelle haute et d'appliquer des règles de manière systématique. Bon, ça ne tient pas du tout parce que par exemple, IE, dans un cas, ça forme une diérèse, comme dans lien, et dans l'autre, ça donne une synérèse, comme dans bien. Alors, on ne pouvait pas non plus s'appuyer sur la forme graphique toute simple. Parce que, on a des exemples comme ici, se fier qui forme une diérèse, fier et fier qui n'occupe qu'une position métrique. Donc il fallait, pour coder la question de la diérèse, introduire des règles, s'appuyer sur des informations morphosyntaxiques. Donc pour ça, tous les cas de diérèse, j'examinais tous les cas de couples commençant par une voyelle haute dans le corpus et constituais des règles qui s'appuient sur la graphie, sur des règles morphosyntaxiques et introduit des règles d'exception parce que pour chacune des règles, il y a beaucoup d'exceptions. Donc ce sont ces règles-là qui ont été introduites dans le phonétiseur pour améliorer le dénombrement. Donc la question du E muet. Les règles du E muet dans le vers classique sont assez simples. C'est devant voyelle et en fin de vers, le E muet tombe, et devant consonne, il se maintient. Donc, où suis-je, on l'a appelé E muet faible parce que devant une voyelle, il tomberait. Qu'ai-je fait, c'est encore un E muet faible. Que, c'est un E muet non faible. Dois-je faible. Ce faire encore, le E disparaît devant encore, et le E final de encore disparaît aussi. À titre d'exemple, la connaissance du fonctionnement du vers français n'est pas, enfin, la connaissance des règles du vers classique français n'est pas encore tout à fait au point, parce que dans cette publicité pour une des vidéos sur Molière, je suis partie chercher la petite à l'école. C'est un vers absolument impensable chez Corneille et Racine et chez Molière, parce que ce e muet n'est pas élidé puisqu'il est devant consonne et on est obligé de le compter. Mais le fait de le compter nous fait entrer en contradiction avec la diction courante. Donc ce sont des cas qui ont été interdits strictement par Malherbe et qui ont été respectés par tous ceux qui l'ont suivi. Bon, et le dernier, la liaison, c'est pire. Alors pourquoi il fallait coder la liaison? Parce que si on ne fait pas la liaison, par exemple ici, de larmes abreuvées, dans le fonctionnement du phonétiseur, ne pas faire la liaison ici, c'est se retrouver avec deux larmes abreuvées et on a une position métrique qui tombe. Donc c'était essentiel de coder tous les cas de liaison dans le vers. Alors on a introduit deux niveaux de liaison qui permettent de distinguer ce que Pierre Encrevet appelait la liaison directe avec et sans enchaînement. Donc quand les liaisons nous paraissent faibles, quand les liaisons ne sont pas attestées en langue ou on les a laissées du côté du mot d'origine, et quand ce sont des liaisons obligatoires en langue, elles sont passées dans la syllabe suivante. Donc des yeux, le z de yeux passe dans la position métrique yeux. Voilà, c'est fini. Donc, en introduisant toutes ces règles dans le métromètre, on arrive à un décompte parfait, on peut le dire, enfin quasiment parfait, à 99% du vers classique. Alors, on ne se contentait pas, on ne cherchait pas seulement à identifier les positions métriques, mais aussi à caractériser chacune des positions avec des indicateurs linguistiques. Voilà. Donc, les indicateurs qui ont été retenus sont les suivants. En gros, on a cherché à identifier donc, les voyelles métriques correspondant à chacune des positions. Donc ici, vous avez les 12 positions du vers. Ici, les voyelles métriques correspondant à chaque position. Ensuite, identifier les fins de mots. Donc on a une fin de mot quand ça correspond donc, à la fin de mot, et on a un zéro quand on est à l'intérieur d'un mot. Ensuite, on a codé les catégories morphosyntaxiques, donc les 6 catégories en gros qui sont proposées par Silex. Et ensuite, on a introduit un marquage accentuel. Alors, ce marquage pose d'énormes problèmes parce que la question de l'accent est très controversée en français. Et on a pris on a fait un choix qui est loin d'être parfait, mais qui a le mérite d'être automatisable et qui peut être appliqué d'une manière systématique. Donc, en gros, on a placé un accent, enfin, ce qu'on appelle un accent, sur la dernière syllabe métrique des mots pleins, donc des noms, des verbes, des adjectifs, des adverbes et évidemment des noms propres. Alors, on aurait mieux aimé avoir un marquage de mots phonologiques ou un marquage de groupe de souffle, des marquages qui correspondent plus à la réalité du rythme de la langue française, mais l'analyseur syntaxique appliqué à du vers classique est incapable d'identifier correctement les groupes syntaxiques parce que la syntaxe du vers est trop complexe. Entre autres à cause des questions de métaposition, enfin les questions d'inversion de groupes prépositionnels, enfin, à cause des groupes prépositionnels qui sont antéposés. Donc, une fois qu'on a construit tous ces indicateurs pour chaque position, on a on a une base de données qui repose sur le vers et qui contient autant de colonnes que de variables correspondant à chacune de ces positions et de ces marquages. Et on peut se livrer à des traitements statistiques. Donc, essayer de construire la figure, la figure rythmique en fait de l'alexandrin classique. Donc, je commencerai par présenter un peu ce qu'on voit sur la répartition des phonèmes vocaliques sur le vers, puis la répartition des catégories morphosyntaxiques, puis les fins de mots, les accents, donc ce qui correspond aux marquages qui ont été construits dans le métromètre. Ensuite, examiner un peu la figure rythmique de chaque hémistiche, et ensuite voir un peu les variations selon les genres et selon les thèmes, puis quelques points sur l'évolution de la structure rythmique du vers. Donc, sur ce graphique, on voit la répartition du E muet, enfin, des deux types de E muet, sur les 12 positions, hein, donc position 1 jusqu'à la position 12. Donc le premier résultat qui est tout à fait trivial, c'est que on ne trouve jamais de E muet en 6e et en 12e position. Donc cette règle-là qui est bien connue, on la trouve ici vérifiée. Chez Corneille et Racine, il n'y a strictement aucune exception. Ce n'est qu'à partir de Mallarmé de Rimbaud et Mallarmé qu'on commencera à trouver quelques cas extrêmement rares de E muet en position 6, de E muet faible en position 6. On n'en trouvera pas en position 12, évidemment. Ce qui est intéressant dans ces courbes, c'est la ressemblance entre la structure, la répartition du phonème sur le premier et sur le second hémistiche. On voit ici que le vers est vraiment constitué de deux parties qui ont la même figure. Alors, quand on regarde la répartition d'autres noyaux vocaliques, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc, en haut à gauche, c'est le A. En haut à droite, c'est le E ouvert et fermé et le I. Là encore, on retrouve des corrélations fortes entre type de voyelles et positions métriques. Donc les voyelles ne se répartissent pas du tout d'une manière aléatoire sur les différentes positions du vers. On le voyait sur le EME, mais c'était déjà plus connu. C'est valable pour toutes les voyelles. Alors, la symétrie, on retrouve la symétrie des courbes, mais elle est un petit peu moins nette que pour le cas du E muet, et elle s'explique en partie par les questions de la rime. Par exemple, ici, vous voyez que en 12e position, il y a beaucoup plus de E et de I qu'en 6e position. Et c'est lié au fait que le nombre de mots qui peuvent aller à la rime en se terminant par E ou I est beaucoup plus important. Enfin, ce sont des, comment dire, ce sont des réservoirs de mots rimes, mais terminant en E, enfin les mots finissant en E et en I, il y a des réservoirs de mots rimes très importants. Et donc, l'écrivain aura tendance à réserver ce type de terminaison pour la fin du vers. Ah oui, et puis, ce n'est pas seulement ça, c'est qu'il y a des terminaisons qui sont interdites. Non seulement c'est plus facile de trouver des mots rimes en E et en I que pour d'autres voyelles, mais surtout, il y a des terminaisons du type IES, IS, non, IE, oui, c'est ça, IES et EES et ES qui sont strictement interdites en 6e position en raison des règles de la césure. Donc c'est normal aussi qu'il y ait un report de ces terminaisons en fin de vers. Alors, le graphique suivant présente le nombre moyen de phonèmes par position métrique. Donc c'est un indicateur que j'ai construit un peu au hasard et qui révèle des... Enfin, qui est vraiment intéressant au niveau rythmique, parce qu'on voit très clairement qu'en début de vers, on a des positions métriques des syllabes métriques assez réduites, avec moins de deux phonèmes au début. Enfin, il y a beaucoup de vers qui commencent par « et »,« a », enfin, par des prépositions très courtes. Et on arrive, en fin d'hémistiche, à des positions qui ont une extension assez importante, qui approche donc les trois phonèmes. Si on l'avait fait sur la graphie et non plus seulement sur les phonèmes, on aurait eu des différences encore plus fortes. Donc, sur cet indicateur construit un peu a priori, on retrouve de nouveau quand même la symétrie entre les courbes. On retrouve l'opposition entre le début de vers, donc très faible, et la fin de vers, l'écart très important entre le début d'hémistiche et la fin d'hémistiche, qui fait que quand on se met. Il y a une rupture très importante quand on passe d'un hémistiche au suivant. C'est quelque chose qu'on retrouve pour une grande partie des marquages. Et enfin, on commence à percevoir un troisième élément, c'est que la position qui précède la position la plus marquée dans le vers est toujours, pour la quasi-totalité des marquages, a tendance à toujours être très dépréciée pour mieux faire apparaître la saillance de la position la plus marquée. Donc c'est ce qu'on voit clairement pour la répartition de ces autres indicateurs. Donc là, c'est la répartition des fins de mots sur les 12 positions. Donc de nouveau, un écart très important entre la symétrie des courbes sur les deux hémistiches, puis un écart important entre la dernière position d'un segment métrique et la première du segment suivant. Et enfin, la position précédant la position la plus marquée, qui a tendance à être déprécié. Donc, en gros, la position la plus marquée est toujours entourée de positions très, très, très peu marquées. Alors, pour les mots pleins, donc, on retrouve de nouveau les mêmes résultats avec, encore une fois, un marquage très fort de... les mots pleins qui occupent surtout la fin de l'hémistiche. Donc là, les mots outils et les mots pleins et les mots outils jouent vraiment un rôle exactement symétrique à l'intérieur du vers. On n'a jamais de mots outils en 6e position et les mots outils se retrouvent toujours en début de position. Quand vous voyez ces courbes, elles sont vraiment, c'est un effet de bascule. Plus on avance dans l'hémistiche, plus les mots outils cèdent la place aux mots pleins. Alors, je refais une parenthèse parce que le métromètre permet effectivement d'identifier la courbe globale, la répartition globale de certains indicateurs morpho-syntaxiques, lexico-accentuels, etc. Mais le métromètre permet aussi de repérer des vers rares. Je n'en donne que quelques exemples. Donc, le premier vers est caractérisé par un nombre de muets tout à fait anormal. On arrive à 5. À 5 e muets, c'est quasiment le seul exemple dans l'ensemble du corpus corneille-racine avec un nombre aussi élevé de muets. Donc on peut repérer des vers qui utilisent un nombre anormalement élevé de muets. Le deuxième et le troisième vers ont comme caractéristique d'utiliser un nombre très très faible de phonèmes vocaliques. Donc les deux sont fondés sur uniquement trois phonèmes vocaliques. Alors évidemment, c'est assez normal qu'on retrouve des répétitions dans la structure syntaxique et dans la structure du vocabulaire. Donc toujours aimer, toujours souffrir, toujours mourir, on n'a que ou et i dans ce vers et c'est extrêmement rare. Donc le métromètre nous permet aussi d'identifier d'autres raretés du type les vers constitués d'un très très faible nombre de mots. Donc le vers imagination, céleste, vérité, c'est le seul mot du corpus qui n'est constitué que de trois mots. Inversement, on peut retrouver les mots constitués du nombre maximal de mots possibles dans un vers, c'est-à-dire enfin 12, ou un peu plus si on considère les mots avec apostrophe. Bon, je reviens à la courbe globale sur... Je reviens donc à la marque globale qui est le marquage accentuel sur les 12 positions, qui est le marquage qui correspond plus à la notion de rythme, mais qui synthétise un peu tout ce qui a pu être vu avant. Et on voit de nouveau les mêmes phénomènes, donc marquage très fort de la 6e et la 12e position, marquage très faible des débuts de vers, et un marquage intermédiaire sur les positions de 2 à... marquage intermédiaire sur position de 2 à 4, et très faible marquage de la position 5. Alors déjà, sur ce graphique... Donc, en fait, à travers toutes ces courbes, on voit se dessiner un peu ce qu'on peut appeler la figure un peu feuilletée du rythme, c'est-à-dire quels que soient des marquages, on trouve des figures similaires, alors qu'on est dans des plans de la langue qui sont a priori différents et indépendants. On trouve le même type de répartition pour les voyelles ou pour les catégories syntaxiques, alors qu'a priori, il n'y a pas forcément une liaison immédiate, enfin une corrélation parfaite, en tout cas, entre catégories morphosyntaxiques et sons. De même avec l'accent et les fins de mots. Donc on a l'impression que le rythme est constitué vraiment d'une superposition d'effets linguistiques plus ou moins indépendants, qui résonnent ensemble et qui constituent la structure un peu feuilletée du rythme. Dans ce graphique, ce qui est aussi intéressant, c'est que donc on voit la symétrie des courbes, mais on voit déjà apparaître une différence entre le premier hémistiche et le second hémistiche. Parce que jusqu'à présent, j'étais en train de dire que le vers était constitué de deux hémistiches quasiment indépendants, puisqu'ils avaient chacun la même structure. On voit déjà se dessiner une petite variante entre les deux. C'est pour ça qu'il était important d'étudier la figure rythmique de chacun des hémistiches. Donc, en gros, là, la position 9, qui correspond à ce que la tradition gréco-latine appelait le vers anapestique, est mieux représentée et plus marquée que dans le premier hémistiche. Alors, quand on fait des regroupements, ce résultat apparaît de manière encore plus nette. En gros, quand on avait un marquage de 001, 001, comme a prouvé ma faiblesse, donc on a appelé cette figure 001, 001, pour ne pas entrer dans les controverses entre Est-ce qu'on peut utiliser les notions de iambe et d'anapèse pour le verbe français alors que le verbe n'est pas ni quantitatif ni accent. La langue française n'est ni quantitative ni accentuelle. Donc on l'appellera comme ça. Et souffrez ma douleur. Donc on a de nouveau cette figure-là. Et quand on a un verbe comme celui-ci, avec des marquages un peu irréguliers, on l'appellera autre. Et des marquages de ce type-là, donc marqués sur les positions paires, ce sera la figure plus iambique, mais désignée par ce terme-là. Donc quand on regarde la répartition de ces figures rythmiques des hémistiches, on voit que sur le premier hémistiche, on a 24% de type 001-001, alors qu'on en a 32% sur le second hémistiche. Et inversement, enfin, à l'opposé, les figures autres qu'on peut qualifier d'irrégulières, c'est un peu rapide, mais enfin, on les qualifie comme ça. Donc ces figures autres, on en a 39% sur le premier hémistiche et 30% sur le deuxième. Donc on a bien un vers qui devient, au fur et à mesure qu'il avance sur la ligne, qui devient de plus en plus régulier au niveau métrique, puisque les formes les plus, entre guillemets, les plus régulières ou les plus nobles, ils sont beaucoup plus fréquentes. Donc ça, c'est une observation qui n'avait pas pu être faite jusqu'à présent d'une manière un peu systématique, tout simplement parce que ce genre de comptage manuel est particulièrement long à faire. Donc pour conclure un peu sur la figure globale du vers, l'examen de la répartition de ces différents marquages montre des corrélations donc entre chacun de ces marquages et les positions métriques. On voit que certains marquages sont interdits en certaines positions, et par là on ne fait que confirmer ce que toute la tradition métrique a déjà dit depuis que le vers français existe en tout cas. Enfin, c'est ce qu'on a vu avec l'interdiction des mots en 6e et 12e position, l'interdiction des mots outils en 6e et 12e. On voit bien que chaque hémistiche a une figure autonome avec des positions plus marquées, figure symétrique, position plus marquée sur chacun des segments, mais on voit aussi qu'il y a que chaque hémistiche donc a une forme autonome, mais que l'unité du vers est quand même assurée, d'une part d'une manière évidente par la graphie, puisque le vers s'écrit sur une seule ligne, d'autre part par la rime, par l'existence de règles qui interdit certaines combinaisons phonétiques au niveau de la césure, et puis enfin par cette structure accentuelle qui tend vers une forme de plus en plus régulière. Et c'est assez intéressant parce qu'il y a une étude de Gasparov sur le vers anglais, sur le vers russe, qui montre aussi que, enfin sur le vers iambique anglais et russe, qui montre aussi que le nombre d'accents diminue dans la seconde partie du vers par rapport à la première. Donc c'est sans doute un phénomène assez général pour l'ensemble de la poésie. Enfin, ça mérite d'être en tout cas exploré. Donc, ces différents résultats nous confirment encore un autre élément, c'est que le vers est à la fois deux segments métriques et un seul segment métrique, et c'est vraiment ce qui fait la spécificité du vers alexandrin. Alors ensuite, j'ai essayé de voir s'il y avait des... Là, on a considéré Corneille et Racine comme un seul tout homogène et autonome. Maintenant, l'idée, c'est d'essayer de voir s'il y a des variations dans la structure rythmique des vers selon les genres, selon les auteurs et puis selon les thèmes. Donc pour la question des genres, tout a été, en tout cas sur les spécificités du vocabulaire du genre de la tragédie de Corneille par rapport à la comédie, ça a déjà été fait par Müller donc il y a 40 ans. Donc c'est pas on n'a plus rien à apporter dans ce domaine-là. En revanche, en étudiant la répartition de la structure rythmique selon les genres, on peut avoir des résultats qui renforcent, qui complètent, qui où la structure rythmique devient un indice stylistique supplémentaire pour différencier les genres. Donc les résultats sont assez mitigés parce que quand on regarde la différence de genre pour Corneille, on voit que finalement les différences dans la structure rythmique des alexandrins sont assez faibles. Elles sont nulles. En revanche, si on regarde chez Racine, les différences sont extrêmement fortes entre toutes les tragédies de Racine et l'unique comédie qu'il a écrite, qui est Les Plaideurs. Donc vous voyez, on a 26% de type 001, 001 dans les tragédies de Racine, on n'a plus que 16% dans l'unique comédie, et inversement, on a 50% des mystiches autres, donc des mystiches déstructurées, entre guillemets, contre 35% dans les tragédies. Donc on a bien d'un côté un auteur qui a différencié le plus qu'il a pu les deux genres par la structure des vers qu'il utilise. De toute façon, il suffit de lire Les Plaideurs. Je pense qu'aucun ordinateur n'attribuerait Les Plaideurs à Racine, étant donné la structure du vocabulaire, du thème et la structure syntaxique de ces vers. Inversement, chez Corneille, les différences de genre, le rythme ne permet pas de différencier d'une manière très nette les genres. Alors, ce tableau permet aussi de voir des différences entre auteurs, et Racine apparaît comme un auteur qui privilégie ou qui privilégie la figure la plus régulière, celle de l'anapeste 001, 001. Donc on a 39% d'anapeste sur le second hémistiche, alors qu'on n'en a que 30% chez Corneille. Je vais passer assez vite parce que vous en avez très bien parlé, donc ça va. Donc là, l'expert. Oui. Bon, je suis partie de l'ensemble du corpus découpé en fragments d'une dizaine de vers, donc faisant abstraction de la notion de genre et d'auteur en amont. Donc l'ensemble des pièces de Corneille découpées en petits morceaux de 10 vers et qui ont été classées avec le logiciel Alceste, donc qui propose une méthode de classification descendante hiérarchique. Alors, quand on prend l'ensemble du corpus et qu'on sépare en deux ces fragments en fonction des co-occurrences de vocabulaire, la première division qu'on obtient, c'est d'un côté une grande classe où le mot amour est le plus significatif, et de l'autre une grande classe où le mot mort est le plus significatif. Alors, il ne s'agit pas que de. Cette division est assez grossière, mais ce qui est intéressant, c'est quand on croise cette division avec la structure rythmique, on observe effectivement qu'il y a une variation dans la structure rythmique des vers selon qu'ils appartiennent au pôle mort ou au pôle amour. Donc, on a des vers beaucoup plus. Beaucoup plus d'hémistiches de type anapestique et régulier dans le pôle mort que dans le pôle amour. Alors, cette analyse globale portant sur l'ensemble des pièces de Corneille et Racine, toujours confondues, était assez limitée dans la mesure où ce qui se cache derrière amour, c'est à la fois l'amour des tragédies, à la fois l'amour des comédies, et que ça n'a finalement plus grand-chose à voir. Donc, ensuite, la deuxième analyse a porté sur les pièces centrales de Racine, d'Andromaque à Phèdre, qu'une première analyse multidimensionnelle permettait d'identifier comme extrêmement proche par la structure du vocabulaire. Donc, on était dans un sous-corpus particulièrement homogène et dans lequel il était plus légitime de reconstruire une typologie. C'est en reprenant donc ce corpus et en le découpant en deux qu'on obtient effectivement cette opposition entre d'un côté la classe, de nouveau la classe amour et la classe mort, mais qui sont chacune caractérisées par des modalités d'énonciation très particulières. Donc, du côté de l'amour, on est du côté du dialogue, de la confrontation des personnages sur scène. Alors, du côté de la mort, on est plutôt dans le récit de ce qui se passe hors de la scène, mais ce qui se passe aussi dans le passé. Enfin, on est dans la logique du récit, et tous les indicateurs morphosyntaxiques confirment, enfin vont dans le même sens. Et de nouveau ici, on voit cette opposition, enfin cette variation qui est assez ténue en termes de statistiques, mais comme on travaille sur des échantillons d'une très très grande taille, ces variations sont quand même très significatives. Donc un peu plus de vers de type anapestique dans la classe récit mort et un peu plus de vers moins structurés dans la classe autre. Et il est intéressant de noter que tous les vers prononcés par plusieurs personnages se trouvent effectivement dans cette classe amour. C'est dans la confrontation des personnages sur scène que les tours de parole s'accélèrent et que les vers peuvent être prononcés par plusieurs personnages. Bon. Alors malheureusement, quand on descend plus bas dans les classifications, on est plutôt confronté à... On n'arrive pas à obtenir des unités sémantiques ou des unités thématiques suffisamment pertinentes pour conserver un niveau de découpage plus fin. Et c'est pour ça que finalement, les seules grandes oppositions, qu'avec les outils dont je disposais, les seules qui soient vraiment solides sont ces deux oppositions-là. Alors, je pourrais présenter les oppositions à un niveau inférieur, mais ça tient moins bien la route. Ici, quel que soit le type de paramètres qu'on utilise dans le logiciel, quels que soient les tests faits, on obtient toujours ces oppositions et ces corrélations fortes avec des types de rythmes. Voilà. J'avais juste... On avait d'autres corpus qui permettent de voir comment a évolué la structure du vers au fil du temps. Donc là, on a Corneille et Racine, et puis Voltaire, Hugo, donc c'est la Légende des siècles et les contemplations, Baudelaire, Rimbaud et Mallarmé. Donc ça, c'est à peu près toutes les œuvres en vers de ces trois auteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est quand on voit la répartition des E muets, on voit que le nombre de E muets faibles augmente dans le temps, alors que dans la langue, les E muets faibles avaient tendance à disparaître. Ils étaient de plus en plus souvent élidés. En plus de ça, on sait que ces auteurs, Rimbaud et Mallarmé, ont introduit des E muets, ont introduit des E muets en sixième position, ce qui était complètement interdit dans les vers classiques. Donc on a finalement un écart de plus en plus grand qui se crée entre la langue qui élide de plus en plus les E muets et la langue du vers qui les introduit, enfin qui en introduit de plus en plus et qui les fait... Enfin, qui leur donne plus de place. Donc on voit que cette divergence entre langue et poésie mérite d'être entre langue et poésie mérite d'être un peu creusée. Sur la répartition des pardon, du nombre des mots grammaticaux, on voit bien qu'à partir de Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, avec Rimbaud et Mallarmé, le nombre de mots grammaticaux en sixième position augmente d'une manière très très forte. Donc c'est le desserrement des contraintes, pour reprendre l'expression de Jacques Roubaud, qui se fait ressentir à la hémistiche, à la sixième position, mais en revanche, il n'apparaît, le respect de la fin de vers est constant, même chez ces auteurs, et Roubaud a montré dans La vieillesse d'Alexandre que même dans le vers libre, entre guillemets, il y avait toujours un respect des règles de la fin de vers, alors que l'intérieur du vers est complètement... la structure interne du vers est vraiment déditée. Alors, pour la répartition de la marque accentuelle, on peut voir des variations. Elle reste vraiment à être... Enfin, il faut encore approfondir et les analyser d'une manière beaucoup plus fine. On voit déjà que chez Baudelaire a aussi comme racine une préférence pour le marquage en position 9, que chez Hugo... Chez Hugo, c'est un sous-marquage notoire de la position 9 par rapport aux autres auteurs, parce qu'Hugo va préférer les marquages en position 8 pour pouvoir mettre en place, qui révèle la structure de l'alexandrin ternaire. Bon. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. En gros, pour le moment, la figure du vers était construite sur Corneille et Racine. il faut étendre à d'autres auteurs du théâtre classique du XVIIe siècle, puis à la poésie du XVIIe siècle, et puis étendre à toutes les époques, enfin étendre à d'autres époques pour pouvoir voir comment évolue dans le temps la figure du vers. Une fois que tout ce travail sera fait, on pourra effectivement étudier une œuvre par rapport à un cadre de référence qui serait constitué par la poésie, à définir prudemment, mais étudier la spécificité, la structure rythmique d'une œuvre par rapport à l'ensemble de l'œuvre d'un auteur, ou la structure rythmique d'un sous-genre poétique par rapport à un genre plus global, etc. Voilà. Et puis ensuite, il faudra étendre à d'autres questions l'étude, à d'autres langues, la question de l'étude de la structure rythmique du vers, pour voir si effectivement il y a un modèle un peu plus général du vers qui pourrait être construit et identifié. Voilà.
Alors merci, Étienne Brunet.
Et pour vous permettre de retrouver votre souffle, je vais vous poser une question, ou pas très longue quand même. J'ai beaucoup apprécié des expressions comme des effets de résonance à divers niveaux, ou comme cette structure feuilletée, alors un bonheur d'expression que j'apprécie beaucoup. Mais la question que je vous pose est celle-ci. Vous avez laissé entendre à la fin de votre exposé qu'il y avait beaucoup d'autres travaux à faire. Spécifiquement pour vous, puisque vous êtes très jeune encore. Ne pourriez-vous pas considérer avec votre logiciel métronome ou quelque chose comme ça, comment ça s'appelle?
Métromètre.
Métromètre. Vous pourrez l'appeler métronome ou métronorme, si vous voulez aussi. Eh bien, ne pourriez-vous pas considérer que l'Alexandrin fait non pas 12 pieds, mais 24?
Ou 48?
Pourquoi? Parce
48.
Que vous avez considéré la rime. Qu'est-ce que c'est que la rime? C'est un coup qui met en balance deux alexandrins. Vous avez fort bien étudié la symétrie du premier hémistiche et du deuxième. Et j'aurais tellement aimé que vous puissiez montrer la symétrie du premier vers avec le second.
Alors,
il se trouve que j'ai travaillé sur Hugo et que j'ai essayé de montrer que c'est un couple, comme beaucoup de couples, désaccordé. Le premier vers et le deuxième vers n'ont pas le même statut. En gros, je pourrais dire que le deuxième vers est trouvé par inspiration et que le deuxième après, le premier vers, le premier celui qui vient avant, est fabriqué après par transpiration. Une dissymétrie. On trouve d'abord le deuxième vers et ensuite on raccroche le discours en faisant un premier vers. Et il y a des tas de caractéristiques que je vois à la fois dans la sonorité, dans la structure syntaxique, dans la dissymétrie des rimes. Vous avez dit les rimes en tube, vous les avez montrées, mais on ne savait pas, si, à un moment, on l'a vu, s'il y avait réversibilité. Chez vous, il n'y a pas véritablement réversibilité. En général, la première rime est plus diversifiée et la deuxième est plus concentrée. Voilà ce que j'ai trouvé. Alors, je vous demande si vous avez trouvé finalement quelque chose comme ça, même si vous ne l'avez pas vu aujourd'hui.
Vous aviez montré aussi que la longueur du premier était plus courte, enfin c'était que la longueur du premier mot rime était plus courte que celle du deuxième mot rime, et que c'était des mots plus fréquents, enfin plus rares dans le deuxième mot rime que dans le premier.
Oui, 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 c'est comme si, ayant fait le deuxième vers, l'auteur cherchait dans le dictionnaire quelles rimes on pourrait bien trouver avec. Alors, à ce moment-là, on connaissait les rimes invraisemblables, les rimes plus riches.
Alors sur la rime, je ne l'ai pas du tout fait, mais c'est vrai que c'est à faire en reprenant le modèle que vous aviez construit. En revanche, pour la structure rythmique du vers, non pas pour la rime, mais pour la structure rythmique du vers, j'avais comparé la structure du premier et du second, et il y avait une indépendance entre les structures rythmiques des deux vers. Donc finalement, le couple de vers n'existe que par rapport à la rime. Mais il n'existe pas au niveau de la structure rythmique de chaque hémistiche. Mais la rime, le fait que la rime, enfin, que ce soit le cas pour la rime, ça mérite effectivement de revoir le modèle et de faire un modèle sur deux vers et même plutôt sur quatre pour respecter l'alternance en genre.
Autre intervention? Monsieur. Attendez, vous pouvez parler dans le micro et dire votre nom, s'il vous plaît.
Merci. Oui, vous avez parlé des difficultés que vous aviez avec les accents, enfin, puisque effectivement, bon, il y a pas mal de variations possibles dans le placement de ces accents. Mais est-ce que vous n'envisagez pas de revoir à partir de ce moment-là toute une série d'alexandrins que vous avez placés dans les 39% par exemple problématiques, de manière à les ranger peut-être dans la première ou dans la deuxième catégorie et voir à ce moment-là vos chiffres finalement se modifier?
Alors effectivement, cette démarche-là avait été adoptée par Roubaud et Lusson sur l'alexandrin français et reclassée en iambe et anapeste tout ce qui était un peu. Pas très clairement identifiable. Mais je trouvais intéressant de ne pas faire cette classification parce que ça permettait de bien montrer la différence entre la structure rythmique du second et du premier rhémistiche. Parce que si on reclasse tous les autres, on n'arrivera pas à mettre en évidence le fait que le second rhémistiche est beaucoup plus régulier que le premier.
Oui, avant peut-être les deux étapes.
Il faudrait faire les deux.
Vous pouvez montrer les deux.
Oui, c'est vrai.
Autre remarque? Alors, vous comprenez pourquoi on n'a pas prévu 6 exposés et que 5 auront suffi à remplir largement cette journée. J'insiste sur la nouveauté d'échelle du travail qui vient d'être présentée, parce que, en fait, si on regarde le sommet de l'école cornulienne, qui est la thèse de Gouvard, elle porte sur 1500 vers. Et là, je veux dire, c'est pas simplement un problème technique, c'est-à-dire qu'on arrive à une échelle où on peut percevoir des choses qui auparavant étaient tout simplement imperceptibles. Et ce qui m'a frappé, c'est d'ailleurs que ce problème de l'objectivation, disons, quel que soit le test qu'on prend, on retrouve le même type de forme. Et c'est quelque chose qu'avait souligné également Brunet, ou du moins des formes apparentées. Et de ce point de vue-là, le fait que les différents critères permettent de formuler des formes de même famille, c'est quelque chose qui est très, très intéressant, parce que ça prouve qu'on est d'abord parti du... On n'est plus dans le principe de plaisir, on est dans le principe de réalité, que la réalité, c'est aussi, enfin, disons, l'objectivation de l'objet culturel, c'est que il y a des points d'accord, quelle que soit la façon dont on finit, quelle que soit la façon dont on l'aborde. Brunet avait pris l'image de la sphère, on peut en faire des photos, des prises sous divers angles, on arrive toujours. Et là, je crois que l'idée de la caractérisation des auteurs et des œuvres, justement, va tout à fait dans ce sens. Parce que on a été dans les études littéraires sur un mode subjectiviste. Bon, qu'est-ce que serait un mode objectiviste? Bon, c'est l'idée d'une, entre guillemets, d'une science de la littérature qui ne vient pas simplement des formalistes russes, qui vient des premiers romantiques d'Iéna. Et donc le principe même de la critique, au sens fort du terme, est enraciné là, c'est-à-dire une philosophie de la philologie. Et bon, c'était comme ça que Schlegel formulait le problème de l'interprétation, mais je crois que là, on est dans une situation assez, assez nouvelle dans la perception qu'on peut avoir des textes, qui n'enlève rien du tout à la, disons, au mode hédonique, au contraire, bien sûr. Alors, on se donne rendez-vous demain à 10h, et merci de votre participation. Pour les gens qui ne reviendraient pas, je signale que les débats seront publiés sur un site que je vais mettre sur le transparent.